Imaginez, oui, je deviens imaginaire, une sorte qui n'a, une chose qui n'a donc rien à voir avec la réalité. Imaginez un touriste qui entre dans une église en plein milieu de la messe. Il en fait le tour pour la visiter pendant que le prêtre prêche avec brio et que les chrétiens prient avec ferveur. Il déambule, le nez en l'air, contemplant les voûtes, les tableaux, les vitraux, et 10 minutes plus tard, il en ressort comme si rien ne s'était passé. Il aura fait le tour des Jacobins comme si nous étions invisibles. Ce qui l'a touché, c'est le palmier des Jacobins, la beauté des vitraux, la chaleur de la brique, le silence majestueux des lieux, mais pas nous. Nous, nous étions comme invisibles, nous ne l'avons pas interpellé. Notre présence n'a rien changé à sa visite. Mais pire, elle n'a rien changé à sa vie. C'est ce à quoi ressemble notre église aujourd'hui en France, à Toulouse, transparente, insignifiante. Au mieux, un monument historique, un beau monument hein, qui fait partie de l'histoire de France, de l'histoire de Toulouse, de l'histoire passée. Au pire, un objet de scandale. Alors bien sûr, nous y faisons de belles et bonnes choses dans notre église, hein, dans notre paroisse, nous nous réunissons, nous catéchisons, nous allons à la messe, et tant d'autres choses, mais est-ce que cela change notre vie? Est-ce que cela change la vie de nos contemporains? Je parle de notre touriste, hein, de tout à l'heure, celui qui a fait le tour de l'église, le nez en l'air, celui que nous n'avons pas accueilli, pas su, pas pu accueillir. Oui, mais vous me direz, c'est compliqué d'accueillir quelqu'un à la messe, et puis il n'est pas venu pour ça, et puis c'est pas le lieu. Alors mes frères, allons-nous continuer à célébrer la messe comme ça chaque dimanche, entre nous, tranquillement, en espérant que des personnes s'agrègent à notre communauté, un peu par miracle, un peu par coup de bol, un peu par hasard. Et ça arrive, hein. Regardez Saint Paul, action directe de Dieu. Allons-nous continuer à préparer au baptême, au mariage, ceux qui se présentent et les laisser repartir sans rien leur proposer d'autres? Allons-nous continuer à fleurir, à chanter, à catéchiser et voir partir les enfants à peine la première bouchée avalée? Bien sûr que non. Aucun de nous ne le veut. C'est même un motif de découragement pour ceux d'entre nous qui se donnent si généreusement dans ces services. Alors, comment permettre à toutes ces personnes de nous rejoindre, de se joindre à nous lors des messes chaque dimanche à la Dalbade, à la Daurade, à Saint-Aubin, à la cathédrale, car c'est là, à la messe, que bat le cœur de notre communauté, Jésus. Mais comment se fait cette agrégation habituellement? En fait, elle se fait de deux manières, hein, me semble-t-il, par la fraternité et par la mission. La fraternité, l'accueil fraternel, d'abord entre nous, hein, c'est pour ça que nous avons pris 30 secondes au début de cette messe pour nous saluer, parce que bien souvent, nous sommes de parfaits inconnus les uns pour les autres. Nous pouvons passer une année entière sur le même banc sans nous adresser la parole. Et nous osons encore nous appeler frères. C'est pour cela que nous prendrons une demi-heure après la messe pour discuter ensemble dans le cloître des Jacobins, un verre à la main. Parce que nous sommes frères. Sans cette fraternité voulue, vécue, entretenue, il n'y a pas d'église. Mais en fait, je crois que le dimanche, à la messe, nous sommes trop nombreux. Enfin, trop nombreux pour vivre cette fraternité. Pour vivre en frères, nous avons besoin d'être moins nombreux, de nous connaître, de savoir ce que nous vivons dans la semaine, nos joies, nos peines. Or, on ne peut pas connaître 800 personnes. Pour vivre la fraternité, il faut être un petit nombre, il faut être un petit groupe de frères. L'agrégation se fait donc par la fraternité, et la fraternité est première, mais elle se fait aussi par la mission. Aller rencontrer celui qui est au loin, aller le rencontrer pour l'inviter à faire cette rencontre qui change tout dans une vie, la rencontre du Christ, celui qui vous a touché, celui pour qui vous êtes là ce matin, celui que vous aimez, que vous priez, que vous servez, Jésus-Christ. La mission qui est la raison d'être de l'Église. Jésus a fondé l'Église pour qu'elle continue d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand l'Église fait autre chose que ça, ben elle n'est plus l'Église. Et je me dis bien souvent hein, que la mission doit être le critère ultime de toutes nos propositions pastorales. Est-ce que je suis là pour annoncer Jésus-Christ? Est-ce que le but de mon groupe de catéchisme, de mon aumônerie, de mon groupe biblique, de mon équipe du mouvement chrétien des retraités, de mon équipe d'ACI, est d'annoncer le Christ? Si ce n'est pas le cas, si nous le perdons de vue, nous prenons le risque de tourner en rond, de péricliter. Et nous en connaissons un hein, de ces groupes qui ont plaisir à se retrouver entre soi, entre amis. Mais l'entre-soi, il est mortel. Nous sommes faits pour l'autre. pour la mission. Quand nous l'oublions, quand nous négligeons la mission, nous risquons de tomber dans les querelles intestines, mesquines, mortelles pour nous, mais plus encore pour notre communauté, notre Église. La mission, elle nous ouvre, elle nous dilate le cœur, elle nous met en danger aussi, hein, elle nous sauve du confort. Mais mon père, c'est ce que nous vivons déjà toute l'année, je veux dire, toute notre communauté, elle est déjà si fraternelle et si missionnaire. On n'a besoin de rien de plus, hein. C'est vrai. Mais alors, je vous propose de vérifier que ce groupe auquel vous appartenez est fraternel et missionnaire. Vous posez simplement ces deux questions. Comment est-il fraternel? Comment est-il missionnaire? Vérifiez que dans chacun des groupes de la paroisse déjà existants, nous vivions la fraternité et la mission. Pourquoi les deux? Parce qu'avec la fraternité sans la mission, nous virons rapidement à un groupe d'amis dont bien souvent le Christ ne sera pas au cœur. La mission, c'est cette ouverture à celui qui est au dehors, à celui que je ne connais pas, à celui que j'invite, celui qui me dérange, mais qui en même temps me tient en éveil, évite que je m'habitue. Mais la mission sans la fraternité, c'est vain, c'est du prosélytisme, c'est du chiffre. En effet, j'annonce le Christ dans la mission, oui, mais où est-ce que je le rencontre? La fraternité, c'est ce lieu où je peux rencontrer concrètement le Christ dans mes frères, en partageant ma foi, en nous aidant les uns les autres à grandir dans l'amour du Christ. Alors, je vous propose, hein, pendant ce temps de l'Avent, 4 semaines, c'est court, hein, 4 semaines, je vous propose de constituer des petites fraternités de 6 à 10 membres maximum, afin que nous apprenions à nous connaître mieux. C'est important de connaître le prénom de mon frère. Pour vous retrouver, une fois par semaine, pour 1h, 1h30 maximum, pas pour boire un verre, hein, pas pour faire une belote, non, juste pour partager ensemble sur la parole de Dieu, l'évangile du dimanche suivant, pour prier les uns pour les autres, pour partager sur ce que Dieu a fait dans notre vie cette semaine, et sur ce que j'ai fait pour Dieu, pour vivre un temps fraternel. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire en somme. Oui, mais Dieu peut faire des choses extraordinaires au milieu de cet ordinaire que nous lui offrons, au milieu de nos semaines souvent surchargées. Surchargées, c'est bien le mot, hein, parce que, oui, mon père, vous vous rendez pas compte que de tout ce qu'on a déjà à faire, si on se rajoute quelque chose, on va exploser. Une chose de plus, vous imaginez pas, c'est vrai. Une chose de plus, mais une chose absolument essentielle en fait. Nous recentrer ensemble sur Jésus-Christ. Peut-être hein, faudra-t-il abandonner d'autres choses, peut-être faudra-t-il faire moins de choses pour être plus, pour vivre plus intensément, pour partager en frères et nourrir notre vie spirituelle. Sinon, tout le reste n'a aucun sens. Rien ne sert de catéchiser, hein, rien ne sert de chanter, de servir, si ce n'est pas nourri par notre union à Jésus. Et parfois, je dois vous l'avouer, hein, notre paroisse risque plus de ressembler à une entreprise à faire tourner qu'à une communauté de frères à aimer. Et j'en suis le premier responsable. Peut-être que ce temps de l'Avent est le bon temps pour simplifier notre vie, à l'image de la simplicité de la crèche, pour nous recentrer sur l'essentiel, l'unique nécessaire, le Christ et sa parole. Des fraternités, d'accord, mais alors en quoi ces fraternités sont-elles missionnaires? Elles le seront à une seule condition, que nos cœurs soient ouverts et que vous y invitiez une ou deux personnes dont vous savez qu'elles ne viennent pas à la messe. Parce que la messe, c'est trop triste, c'est pas accueillant, je sais pas, j'y comprends rien. Elles ne viennent pas, ou elles ne viennent plus à la messe. Mais qu'elles en sont proches, une famille du catéchisme, une amie de l'école, un voisin. Nous avons tous dans notre entourage une de ces personnes à qui nous pourrions proposer cela. Prenez 2 minutes à la fin de cette homélie pour réfléchir à cette personne. Priez pour elle. Cette personne que vous pourriez inviter. Cette amie à qui nous pourrions proposer non pas de nous rejoindre directement à la messe, car à la messe, il y a le risque énorme qu'elle ne soit pas accueillie, mais dans notre fraternité, à la maison, dans un groupe à taille humaine, se retrouver 4 fois comme un chemin vers Noël, s'entraider, à grandir dans cet amour du Christ. Et peut-être que cette porte ouverte dans nos cœurs permettra au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. Peut-être que la parole de Dieu, plus tranchante qu'un glaive et plus douce que le miel, fera son œuvre. Peut-être que ce que nous aurons vécu ensemble nous donnera le goût d'aller plus avant et de poursuivre cette expérience. Peut-être que nous aurons goûté quelque chose de neuf, quelque chose de simple, ce cadeau que Dieu fait à ses fils, la force de la fraternité et la joie de la mission. Amen.